Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech, vous le savez, chaque soir, Tech & Co, la quotidienne, c'est une heure de débrief de 20h à 21h avec les meilleurs experts qui sont là et qui commentent l'actualité. Ce soir, Taï Chris est avec nous, fondateur de On Off, Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil Lab36, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Je sais que vous attendez avec impatience le dénouement de l'histoire de Taï Chris.
Elle n'est pas extraordinaire.
Elle n'est pas extraordinaire, mais quand même, ça nous est peut-être tous arrivé.
C'est arrivé déjà à plein de copains dernièrement.
T'étais sur tes réseaux Meta et d'un coup, paf, plus rien.
Déconnecté. Donc j'ai été log out sur tous mes réseaux Meta et impossible de me connecter, impossible de contacter Meta. Et du coup, j'ai essayé pendant des semaines.
Ah, des semaines quand même.
Ça a duré des semaines.
Je crois pendant un mois et demi, j'avais plus de réseaux sociaux, je pouvais plus. Et je suis arrivé dans une situation où je me suis dit, je ne peux plus récupérer mes comptes. Et c'était vraiment un bug.
Ça t'a fait du bien ou pas?
Je les utilisais pas d'une façon extrême.
Mais c'est toujours quand on ne les a pas qu'on a envie de les utiliser.
Ouais, c'est hyper frustrant. Ça. Et donc j'ai heureusement eu la chance de croiser Laurent Soli un jour.
Ouais.
Et du coup,
le patron Meta. Ouais,
ouais. Je lui ai envoyé un mail et il a été extraordinaire. Il a lu mon mail et il m'a débloqué.
Est-ce que tu sais ce qui s'était passé?
Il m'a pas dit, mais je pense que c'est un bug parce que c'est arrivé pendant les mêmes mois à trois copains différents.
D'accord.
Et c'était sur aucune action puisque j'avais rien posté, un matin je me suis réveillé, impossible de me connecter.
Bon, si vous avez.
Je pense que c'était une sorte d'IA qui, je sais pas pourquoi, a dû bloquer des comptes.
Ouais, peut-être que t'as été banni pour une raison ou pour une autre.
Exactement.
Enfin, ça arrive parfois. Donc si vous l'avez compris, si tout comme Taï Chris, vous n'avez plus de compte Meta, vous appelez Laurent Soli, son mobile. Tu peux le donner. Le téléphone qui sonne toute la journée.
Laurent.soli.
C'est ça. Allez, plus sérieusement, on quitte Meta pour s'intéresser à iOS. iOS 18 va être la nouvelle mouture du système d'exploitation sur iPhone et sur iPad. Il arrivera à la rentrée prochaine. Et on attend beaucoup de cette nouvelle version d'iOS qui devrait être assez innovante, avec beaucoup d'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce qu'Apple dit. Alors quand on creuse un petit peu, on se rend compte que l'iPhone 16, qui devrait sortir en même temps, ne devrait pas être si révolutionnaire que ça, en fait. Il n'y a pas énormément d'innovation. Donc ils se disent, on va sortir un téléphone qui ressemble beaucoup au 15, mais on va apporter iOS 18, qui va apporter un peu plus de fonctionnalités et d'intelligence artificielle, ce qu'a fait en fait Samsung avec le S24. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Galaxy S24 n'est pas... Franchement, il n'y a pas beaucoup de différence avec le S23, mais en revanche, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui fait qu'on a l'impression d'avoir un téléphone plus récent, avec plus de fonctionnalités. Ça serait à peu près le même schéma qui se dessinerait pour Apple, sauf que Apple, visiblement, n'aurait pas son IA de prête. On sait qu'ils travaillent beaucoup dessus, mais elle ne serait pas prête pour dans les mois qui viennent. Et donc, ils se tournent vers des partenaires potentiels. On a évoqué la semaine dernière Google et Gemini. Et là, on aurait peut-être aussi Anthropic et Claude qui interviendraient dans l'iPhone. C'est assez étonnant, non, Damien, de voir comme ça Apple essayer de trouver des partenaires, pas forcément les meilleurs potes aussi d'Apple. Alors, on sait que Google et Apple ont des relations, on va dire, professionnelles de bonne qualité, mais aussi ce sont des concurrents sur pas mal de domaines.
Oui, mais ils sont quand même depuis de longues dates, on va dire des acteurs aussi qui se parlent et qui font des choses ensemble. On parlait tout à l'heure de moteur de recherche, Google a quand même signé un chèque de 18 milliards pour être le moteur de recherche de référence de Safari. Il y a toujours plein de choses entre eux deux, ça fonctionne bien. La question de fond, il y a toujours eu de l'IA chez Apple. Il y a toujours, Il y a de l'IA. Aujourd'hui, si je prends j'ai mon iPhone 15, par exemple. Si je vais dans mes photos et que je tape, par exemple, une photo relative à une voiture, un arbre, un chien, il va me sortir la photo. Donc ça, c'est de l'IA. La question qu'on se pose plutôt, c'est la question de l'IA générative.
Bien sûr.
Qui est le sujet du moment.
ChatGPT, quoi. Est-ce que ChatGPT va arriver dans
Et qui, en gros, pose la question des interactions qu'on peut avoir avec un téléphone. Et bien sûr, on pense à Siri, qui n'a pas évolué, mais que c'est pas la seule, d'ailleurs. Si on prend Alexa ou Google Assistant, c'est pas mieux, qui a pas vraiment
D'ailleurs, Amazon a réagi et a dit qu'ils allaient faire évoluer leur Alexa avec de l'IA générative dans les semaines.
Ils ont fait une démonstration il y a un an et des brouettes de ce sujet-là. C'est pas arrivé encore, mais ils ont annoncé effectivement des mises à jour.
Ouais.
Donc la question de fond, c'est comment Apple va intégrer cette notion d'IA générative pour donner quelque chose de plus pousser. De l'IA, ils en ont déjà. Les ingénieurs, ils les ont déjà. Ils ont racheté des petites boîtes. La question, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'un moteur de LLM, donc un moteur de langage pour pouvoir faire autre chose ? Apparemment, ce serait pas prêt, d'où le fait qu'ils seraient en train de discuter avec des Google ou des Anthropic sur le sujet. Après, la question de fond, c'est il y a deux choses à avoir en tête. Un, Apple a besoin d'un acteur mondial pour pouvoir tenir la charge. Donc avoir un acteur qui puisse vraiment déployer tout de suite. Et il n'a pas 36 sur le marché. Si on enlève Microsoft, etc.
Non, mais il y avait OpenAI.
Oui, mais bon. Enfin, c'est Microsoft, oui, hein, OpenAI. Bon. Donc voilà. Et puis, deuxième élément, Apple fait toujours les choses différemment des autres. Donc, ils ne vont pas faire un moteur de LLM au sens je vais dialoguer. Ils vont intégrer différemment l'IA pour que finalement l'IA ne soit pas présente de visu dans l'appareil, mais serve. Et la question, c'est sur quoi ils vont appuyer pour que ça serve ?
À mon avis, ça va ressembler, alors peut-être je m'avance énormément parce que j'en sais rien, c'est juste un sentiment personnel, mais je sais pas si vous avez vu passer ce boîtier, je crois, chinois d'une boîte qui s'appelait Rabbit ou je sais. À mon avis, ça va aller là-dessus.
Et pas chinois d'ailleurs, hein. C'est une start-up californienne.
C'est une start-up californienne. Mais en tout cas.
Le héros discret du dernier CES.
Oui.
C'est-à-dire que c'était, on parlait que de ça, mais.
Personne ne l'a vu.
Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a, pour utiliser une multitude de services, il y a chaque fois une app. Génial. Mais en tant qu'utilisateur, on est là à devoir taper tout le temps pour sélectionner son billet d'avion, taper tout le temps pour sélectionner son Uber, pour avoir son Deliveroo. Donc on passe du temps sur les écrans de toutes ces applications. Apple a le pouvoir de dire à tous ces fabricants d'applications, vous savez quoi ? Maintenant...
Au revoir.
Au revoir. Globalement, j'ai dans le code des applications que vous allez soumettre, je veux avoir une sorte de backdoor qui me permet via une IA de commander
de piloter
en direct
votre appli. Partout.
Mais attends, voilà, s'ils font ça, il y aura une vraie
rupture. Aujourd'hui, tu peux dire, mais il faut le faire, hein, à Siri, je veux lancer on/off ou je veux ouvrir, etc. Donc, mais il faut le programmer, il faut le faire, voilà, etc. On est d'accord. Oui, on pourrait imaginer que demain ce soit d'office, une sorte d'agent intelligent où tu demandes à dire, bah, si je fais ça, finalement il y a un enchaînement de tâches. Je veux manger ce soir de la pizza et le système va être capable de le faire. C'est pas idiot. J'aime bien.
Le seul souci, c'est pas un souci pour Apple, mais c'est pour les autres, c'est les datas derrière. Ces datas, elles sont où ? Elles sont chez Apple, elles sont chez Uber, chez tout ça. Parce que c'est là où ça va être un peu tendancieux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont accepter que...
La bataille des datas sur le fait de d'ouvrir ton...
Ah oui,
ton
parce que là, c'est une bonne idée de faire les backdoors, mais voilà, savoir ce que aime commander, où aime commander son VTC, à quelle date, enfin, toutes tes habitudes de consommation, qui est-ce qui récupère ces données, est-ce que ça va aller à chaque... Ça m'étonnerait que ça aille à chaque fois chez Uber Eats, chez... parce que là, Apple a accès à ces datas, donc c'est là où je trouve que la stratégie de certains de laisser... Enfin, si c'était ça... Ce qui n'est pas bête, ce serait un peu dangereux.
Peut-être, mais ils ont la force ou ils auraient la possibilité de te tordre le bras, de te dire ben, ça va vous amener du business parce qu'on va amener.
Voilà, ils vont peut-être trouver quelque chose, un moyen. Bon, on s'avance énormément, mais un moyen pour rétrocéder, je ne sais pas comment. Mais au final, la stratégie toujours d'Apple, c'est de faire quelque chose de très innovant qui améliore l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous tous utilisateurs, on passe du temps sur des applis toute la journée à commander des trucs et à faire des trucs.
Ça sera la vraie révolution, en fait.
Mais de toute façon, c'est ce qu'a dit Bill Gates. Bill Gates, il a dit il y a deux ans à peu près, ou il y a un an, non, quand OpenAI était déjà sorti, enfin quand ChatGPT est déjà sorti, il a dit de toute façon, on va arrêter. Un jour, on n'aura plus de navigateur, on n'aura plus de robots, tout ça. On parlera tout simplement et on aura, on lui dira, je vais aller en voyage au Brésil et il s'occupera de tout.
Avec après la question que ça pose, c'est vers quel acteur il va t'amener pour pouvoir choisir tes billets d'avion, de train.
Et la data autre. Derrière.
Et la data qui va derrière. Et les accords qui peuvent être liés aussi. Parce qu'aujourd'hui, sur le Rabbit, on ne sait pas du tout quel le type d'accord qu'il peut avoir avec quel acteur pour pouvoir t'amener
la télé, etc. Là,
à moins que tu choisisses. Dès le départ,
peut-être
les acteurs que tu préfères.
Mais dans et là, on va boucler avec le DMA parce que si Apple négocie avec certains, ils disent bon, bah d'accord, je vous prends, mais ce sera 30%.
Oui, voilà, par exemple.
Aujourd'hui, un Deliveroo.
Et je vais récupérer 30% sur Booking.
Bien sûr. Un Deliveroo, quand vous commandez un burger en bas, Deliveroo, il vous prend une commission à vous, mais il prend également une commission au restaurant également, quoi. Hein.
Mais est-ce qu'Apple prend une commission sur Deliveroo ? Une bonne question, ça.
Comment ?
Ah, est-ce qu'Apple prend une commission sur Deliveroo ? Verrou à chaque
oui, mais moins. Ouais. Moins parce que c'est je crois que c'est la carte bleue.
Les 7%.
C'est une petite commission.
D'accord.
Okay. En tous les cas de figure, l'exemple que donne Taïg est super intéressant parce que oui, ce serait le type d'innovation d'usage de l'IA qui serait pertinent par rapport à l'état d'esprit d'Apple. Après, il y a un autre élément qu'il faut bien avoir en tête. Apple est super bon en IA. Prenez le Vision Pro. Le fait de pouvoir piloter de l'œil, de l'iris, de choisir l'application qu'on veut lancer avec les développeurs
là,
qui expliquent
qu'on parle d'IA générative.
Pardon ?
On parle d'IA.
On est d'accord, oui. Parce que je veux dire, c'est que voilà, il faut faire bien attention à ça. Il faut pas résumer l'histoire en dire Apple est à la rue sur l'IA. Non, Apple n'est pas à la rue sur l'IA. Il y a plein d'exemples qui prouvent ça. Je prends l'exemple de Vision Pro. Donc il y a le côté préemptif, par exemple, du choix de l'application via uniquement l'iris, c'est de l'IA. En revanche, sur le côté génératif, LLM, etc. Là aujourd'hui, apparemment.
C'est là où je dis qu'ils sont à la ramasse sur l'IA, parce que s'ils avaient des gars super bons en IA classique, ils seraient allés assez vite vers l'IA générative, et je pense qu'ils ont un vrai souci.
Fred, c'est toi qui nous disais une fois en plateau, je me rappelle que tu avais su ou tu avais entendu dire que, en gros, c'était une direction non claire au sein de la société.
Il n'y a pas de gouvernance.
Faisait que, finalement, il n'y a pas de choix qui avait été
Il y a eu ceux qui travaillaient sur l'histoire de la voiture, il y a eu ceux qui travaillaient sur Siri, il y a ceux qui. Enfin voilà, et c'était pas très clair. À un moment, c'était la grande époque. Enfin, c'était l'esprit Apple aussi. À un moment, c'était lancer trois équipes sur un même projet, et puis on prendra le meilleur. Hein. C'était comme ça que fonctionnait Steve Jobs.
En plus, maintenant, les.
Mais aujourd'hui, ça. Enfin, en tout cas, sur l'IA, ça, si cette méthode marchait à une époque, ça marche plus aujourd'hui.
Et puis, t'as un autre élément, c'est que l'IA a besoin de data. La question, c'est qu'aujourd'hui, les modèles ont besoin d'être entraînés avec des data. Or, le modèle d'Apple est très fermé pour plein de raisons, notamment la question de la confidentialité qui leur sert de publicité. Comment tu arrives à résoudre cette équation qui est
en anonymisant les données. Peut-être.
Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, on le voit chez OpenAI, chez Anthropic, ils ont été pris la main dans le pot de confiture parce que bien souvent, ils sont allés chercher des données qui étaient copyrightées, qui avaient, etc., et qui étaient protégées et qui n'auraient pas dû être dans les modèles
d'entraînement. Mais ça va être intéressant de voir, lors de la prochaine WWDC, qui est la conférence des développeurs, comment Apple va communiquer sur l'IA générative et voir comment ils vont l'intégrer, parce que c'est toujours ça un peu la force d'Apple, c'est de rendre facile des trucs compliqués, et comment ils vont révolutionner l'ergonomie de l'IA avec l'iPhone en fait. C'est ça qui va être intéressant au-delà des partenaires qu'ils peuvent avoir avec Google et Claude, ça on s'en fout parce qu'ils sont tous bons en fait. Ça va être la manière dont Apple va intégrer tout ça dans le téléphone.
Ça va sûrement être Siri aussi, Siri qui
sans doute
parce que aujourd'hui par rapport à un ChatGPT,
moi j'aurais racheté Rabbit
Siri,
un
peu honte.
Moi, je suis pas la seule
le gros souci avec Apple, c'est que l'un de ses gros marchés c'est la chine, en croissance, c'est la Chine, et que la Chine, si on arrive sans IA ou sans une IA performante, à la façon dont sont en train de mettre en place les Huawei, les Xiaomi, les
Oppo. Tu passes un accord avec Baidu, et puis voilà. C'est un accord local.
Ah oui. Voilà. Non, mais du coup, les Chinois, avoir un iPhone, super, mais quand on leur dit, ah oui, mais moi, mon iPhone Xiaomi, Huawei, voilà un peu ce qu'il fait, peut-être que. Et là, Apple, la croissance en Chine, donc il faut qu'ils aillent vite aussi sur ce côté IA, à mon avis.
Bon, on n'en saura plus, je pense, dans les semaines à venir, et en tout cas, lors de la WWDC, qu'on vous commentera bien sûr dans Tech & Co sur BFM Business, c'est en juin prochain. Dans l'actu aussi, vous savez qu'aujourd'hui, nos politiques aiment bien réagir sur l'actualité de la tech. alors, on avait eu Najat Vallaud-Belkacem il y a quelques jours de cela, qui avait dit, il faut un Internet frugal, donc il faudrait qu'on décide d'un maximum de gigas par semaine qu'on pourrait dépenser. Elle avait sorti 3 gigas comme ça, mais bon... même si l'idée est sympathique à débattre, d'ailleurs sur BFM TV ils en ont beaucoup débattu, c'est 3 gigas quoi, en 4G, en 5G, en Wi-Fi, enfin on sait pas trop quoi finalement. Mais alors bon, il y a eu cette piste qui a été proposée la semaine dernière, et puis il y a Paul Midi aussi qui a publié dans un autre domaine, vous allez le voir, une tribune hier qui a été signée par 125 autres parlementaires de la majorité demandant la fin de l'anonymat sur Internet. Et le député Renaissance souhaite en fait répertorier chaque utilisateur sous une plaque d'immatriculation sur le modèle de l'identité numérique de la Poste ou de France Identité, notamment. Il était l'invité de Télématin ce matin, justement, et on l'écoute et on revient juste après.
Vous pourriez garder l'anonymat vis-à-vis des autres usagers, ce qu'on appelle le pseudonymat.
D'accord, donc m'appeler par exemple Marie du 16.
Voilà, moi je peux avoir un compte Polo 91 avec la photo de mon chat, pas de problème. Okay. Je mets les informations que je veux. Je suis sous pseudonymat, je suis anonyme vis-à-vis des autres usagers. Par contre, je ne suis pas anonyme vis-à-vis de la police et de la justice si jamais je fais quelque chose de très illégal. Ça veut dire, vous avez créé une identité numérique. Il y a des millions de Français qui ont créé une identité numérique avec La Poste, par exemple, ou avec France Identité. Et vous utilisez cette identité numérique pour lier cette identité à votre compte sur le réseau social. Il y a, par exemple, un réseau social qui le fait, qui s'appelle LinkedIn, où vous pouvez vérifier votre identité avec un tiers de confiance qui fait le lien entre votre identité et le réseau social, parce qu'on ne veut pas que le réseau social ait, lui, votre identité, qu'il ait votre pièce d'identité, mais par contre, il a reçu une information qui est que vous êtes bien une personne physique et qu'il a associé à votre compte une identité numérique.
Frédéric Simotel est énervé, mesdames, messieurs. Il bougonnait.
Il n'est pas le seul sur le plateau.
Pendant ce son, Damien aussi. Fred, parce que Paul Midi, tu as beaucoup d'estime pour ce monsieur.
Oui, bah, j'ai croisé
et moi, je me souviens.
Et même à un moment, j'imaginais que ce serait lui le potentiel ministre.
Secrétaire d'État.
Au numérique, parce qu'il avait pas mal d'idées. Mais là, je pense qu'il se fourvoie complètement dans cette histoire d'anonymisation.
On raconte l'histoire. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des abus sur les réseaux sociaux, désinformation, harcèlement, souvent c'est derrière des pseudos, on ne sait pas qui parle, et effectivement comme il y a cette pseudo-anonymat sur Internet, ben des gens font n'importe quoi, hein, ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils sont vraiment, hein, sur les réseaux sociaux, propos haineux, racistes, enfin, etc., etc. C'est un problème, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver une solution. Mmh. Mais la solution sur Internet avec France, enfin La Poste ou France Identité, c'est un peu.
Moi, je pense que Paul Midi, un très bon ancien consultant McKinsey, a manifestement été en mission pour essayer de vendre la solution de La Poste, qui est très bien d'ailleurs, soit en passant. Mais
il n'a pas cité que La Poste.
Oui, il a dit aussi France Identité, voilà. Qui est celle que j'ai dans mon téléphone. D'ailleurs.
Bien sûr.
Non, mais la blague. Sérieusement, l'anonymat, le pseudonymat, c'est l'obsession numérique des politiques chaque année. Moi, je fais le podcast des clairs numériques. L'année dernière, exactement cette année, on a fait un épisode sur le sujet parce que c'était déjà sorti.
Il y a la majorité sur Internet.
Oui.
L'anonymat
sur Internet n'existe pas. Voilà, on va le redire. L'anonymat sur Internet n'existe pas. Parce que tout ce qu'il a dit sur le fait de dire on peut me retrouver, etc., c'est déjà inscrit dans la loi. Oui. C'est possible. Aujourd'hui, les FAI collaborent, les VPN collaborent avec la justice et la police s'il y a nécessité de retrouver quelqu'un. Et en plus,
excuse-moi, je te coupe parce que c'est important ce que tu dis. Aujourd'hui.
Désolé.
À tes souhaits. Merci. Non, mais c'est le soleil qui te fait ça, je pense. Aujourd'hui, je commence à te harceler, etc. J'ai un pseudo, n'importe lequel, qui n'a rien à voir avec ce que je suis. On peut savoir que c'est François Sorel qui a écrit ces messages.
Je porte plainte, je déclare qu'il y a un problème.
C'est pas vrai.
Les plateformes aujourd'hui collaborent avec la justice. La justice peut demander tout simplement à la plateforme qui est derrière, et on peut te retrouver très facilement. Arrivé plein de fois.
Non, mais c'est toujours le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est suffisamment aguerrie et qui va arriver à créer un compte avec un mail...
On peut te retrouver. Le problème,
il n'est pas... Si tu vas sur Tor, etc., etc.
Ah non, mais le problème, c'est que si tu mets... Le truc, il est simple. Déjà, les gens qui vont sur Tor ou autre, de toutes les manières, déjà de base, ils ont envie d'être anonymes. Donc,
oui, mais si quelqu'un t'harcèle... C'est pour ça, quand je dis c'est un jeu du chat et de la souris, si le mec, il a la connaissance et qu'il sait comment être vraiment anonyme sur Internet,
oui, mais
normalement, il y arrivera.
C'est pas eux qu'on cible. Là, on dit, en gros... Aujourd'hui, la loi donne les moyens, mais encore faut-il que la police et la justice aient les moyens de pouvoir gérer ça en volume. Parce que déjà, tu prends une plainte avec ton nom et ton prénom. Si je dis Taï Chris m'a harcelé et je porte plainte, déjà rien que ça, alors qu'on sait qui tu es, il faut être capable de pouvoir instruire ça. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que la police et la justice n'ont pas le droit. En plus, deuxième élément, tu as plein, très souvent des gens qui, tu parlais de harcèlement, se présentent sous leur vrai nom. Le tragique assassinat de Samuel Paty. C'est une personne en visage découvert qui a fait une vidéo sur Facebook en appelant à le tuer. Je veux dire, son nom et son prénom, on le savait. Donc, il y a très souvent des cas qui ne sont pas cachés. Et dernier élément, il y a tous les éléments possibles pour faire ça. Le fait d'introduire cette notion de carte d'identité, je vous crée un lien entre pseudonymat et votre vrai identité, c'est un moyen de ficher tout le monde. Et ça, aujourd'hui, si tu veux,
tous les lanceurs
d'alerte, etc., ne peuvent plus exister. Mmh, ça me pose problème.
Je suis pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que tu dois pouvoir naviguer sur Internet en étant anonyme si tu as envie. Ça, là-dessus, pas de problème, parce que finalement, tu navigues pour toi-même. Tu as envie de chercher, je sais pas comment tu dis, un billet d'avion, mais tu n'as pas envie qu'on traque ça. Il n'y a pas de problème. Ce qui me dérange, c'est sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, tu interagis avec d'autres gens, et là...
Il y a une notion de responsabilité.
C'est pas que de responsabilité. Oui, c'est responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font... Il y a des jeunes, malheureusement, qui se suicident parce qu'ils se font harceler là-dessus. Il y en a d'autres, t'as des pédophiles qui créent des faux comptes, etc.
Il n'a pas tort, Damien, sur ce coup-là. Il n'a pas tort.
De pouvoir avoir un compte visiblement sur les autres utilisateurs où on ne peut pas, tu mets un nom bidon, etc. Mais si jamais, aujourd'hui, il y a tellement de jeunes, tu regardes sur Instagram, je crois que c'est interdit aux moins de 16 ans, ou moins de 12 ans, quoi que ce soit. Mais toutes les gamines de 10 ans, elles ont Instagram.
Non, mais
et ça leur torture la tête.
Oui, mais la réalité. Mais la réforme, elle est plus profonde que ça. Et là, je rebondis sur ce que dit Damien. Déjà, les gens, quand on fait dans la vie normale, même non virtuelle, il y a pas t'as rabot porter plainte, tout ça, il y a plein d'affaires que l'on voit.
Ah oui,
les
gens se
plaignent que voilà.
Mais ça, c'est,
non mais
ça,
oui
c'est
mais voilà, commençons par là aussi. Après, l'histoire de la, moi j'appelle ça des pseudo anonymisations, parce qu'on réussit toujours à retrouver l'adresse IP, la preuve quand ils enquêtent, tu vois, sur Logbit, tout ça, ils ont réussi à remonter, ils en ont arrêté 3, ils en ont d'autres ciblés, tu vois, ils avec la collaboration aujourd'hui des fabricants.
Mais ça complexifie les procédures.
C'est une question,
Tu es d'accord, c'est que après on peut dire que les autorités sont débordées et que pour un petit harcèlement finalement, ils vont pas aller bien loin.
Ils vont pas faire la réquisition judiciaire.
Tu crois vraiment que si demain tu allais porter plainte parce que Batman 75 c'est un gamin untel, tu crois que vraiment la police va aller aussi le sermonner?
J'y crois pas. S'il est connecté sur sur une plateforme comme, je sais pas moi, France Direct, quelque chose comme ça. Il le saurait, il saurait qu'il est connecté.
Je fais un peu l'avocat du diable, sans aller là-dessus.
Est-ce qu'on n'a pas envie, simplement, quand on a nos gamins et nos gamines, vous savez très bien, en prenant l'exemple d'un Instagram qui donne une attention incroyable. Tu vois sur Instagram que des vies exceptionnelles de gens. Donc pour peu que tu as un gamin ou une gamine qui est seul dans sa chambre, qui est pas le top modèle que tu vois sur Instagram, etc., qui est dans la puberté, qui a 11 ans, qui a 12 ans, etc., elle va partir automatiquement en déprime en 2 secondes. Elle verra qu'elle sera jamais,
Et donc t'as pas envie.
Oui mais
supprime l'application, on fait en sorte que ta gamine n'ait jamais accès à ça.
Elles peuvent s'inscrire.
Oui, mais ça... normal, il faut pas qu'elles s'inscrivent. Si, je veux dire, ils mettent des lois, c'est interdit aux moins de 16 ans. Mais toutes les gamines de 10 ans, elles ont Insta.
Oui, mais tu vois, c'est pas lié.
Pourquoi tu fais une loi? Tu fais une loi et tout le monde sait qu'on la respecte pas en étant parent. Moi, je veux dire, ma fille, elle est trop petite, elle a 1 an et demi. Mais le jour où elle aura...
Si elle est sur Insta, déjà, c'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. Mais le jour, si à 8 ans, elle commence à me dire, je veux Insta, et moi, connaissant à quel point ça peut perturber de voir tout ça dans le rapport aux autres, etc., je serais bien content qu'elle ne puisse pas le télécharger, quoi.
Le truc à avoir en tête, c'est que derrière, la loi SREN, qui est sur la sécurité numérique, va obliger les sites X à devoir prouver que les acteurs, enfin les gens qui viennent sur leur site sont majeurs. Il va falloir trouver un moyen de faire ça. Moi, mon sentiment, c'est que la tribune de Paul Mégui, elle est purement opportuniste.
Elle est vraiment mal née.
Par rapport à une nécessité sur certains cas, mais je pense que dans d'autres cas, ça peut vraiment être bien qu'il y ait une protection
d'identité. Un dernier point, quand même, parce que ce sujet me tient vraiment à cœur.
On explose les compteurs. Ouais. Mais c'est pas grave.
Un dernier point là-dessus, c'est que tous les fabricants d'applications, ils auraient pu bloquer ça bien avant, parce que eux, ils savent réellement le nom, l'âge des jeunes, etc. Mais eux, ils veulent vendre plus de pubs.
Oui, bien sûr.
Et donc, ils acceptent, ils ouvrent les
vannes. C'est l'hypocrisie, évidemment, de ces réseaux sociaux. Voilà. Ça sera le mot de la fin. On reviendra sur ce sujet, parce que je sais qu'il vous tient à cœur et qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà, l'heure tourne, malheureusement. Merci beaucoup, Taïg.
Merci.
À très vite.
Un plaisir.
Tu reviens quand tu veux.
Merci.
Fondateur de On-Off. Merci à Damien Douany, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil L'Apprentis. Et merci à Fred Simotel. Tu seras là demain avec nous, d'ailleurs, demain, Fred.
Je pense que demain,
tu es là. En tout cas, tu es noté sur le planning. Et quand tu es noté sur le planning, tu es là.
Tu es là.